La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info pour ce rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité nationale qui nous fournit chaque semaine matière à débattre. Voici ceux qui ont accepté de participer à ce numéro aujourd'hui. Tout d'abord, une nouvelle venue à la mêlée, Alice Carré, co-secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts. Elle est entourée de deux habitués de cette émission, Monique Iborra, députée Renaissance de la Haute-Garonne, et Franck Bouteau, professeur de médecine, secrétaire départemental du parti Debout la France pour la Haute-Garonne. Bienvenue également à tous les trois, merci d'être au rendez-vous. Pour commencer, nous allons débattre d'un sujet qui a été beaucoup commenté dans les médias et la classe politique cette semaine, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Elle a été votée lundi à Versailles par les sénateurs et les députés réunis en Congrès. Un vote à une très large majorité comme on pouvait s'y attendre avec 780 voix pour et 72 contre. Le président de la République et le Premier ministre se sont réjouis de ce résultat, de même qu'une grande partie des élus de presque tous les bords. Pour votre part, est-ce que vous jugez qu'il était nécessaire et même urgent de constitutionnaliser l'IVG? Et si oui, pour quelles raisons? Monique Iborra, je ne pense pas trahir un secret en disant que vous faites partie de ceux et de celles qui ont voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
Absolument. Oui, alors voilà, la question que vous posez, de savoir est-ce que c'était urgent, est-ce qu'il fallait le faire, puisque c'est un droit. Il y a le problème du droit et il y a le problème de l'effectivité du droit. Je crois qu'en effet, on pouvait, il y a quelques années, partager cette idée en disant, bon, oui, c'est vrai, en France, aucun parti ne demande en effet l'abolition de la loi. Et donc, pourquoi la mettre dans la Constitution ? La Constitution qui est quand même quelque chose qui nous régit d'une certaine manière. Et en effet, certains disaient, après tout, la Constitution n'est pas faite pour ça. Mais quand on regarde autour de nous, quand on regarde aux États-Unis, où c'est remis en cause, et pourtant c'était un droit, quand on regarde certains pays européens qui aussi veulent le remettre en cause, et quand on sait que rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais acquis, eh bien je crois que le mettre dans la Constitution, c'était d'abord d'une certaine manière protéger l'IVG, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas revenir dessus. C'est une protection, ça veut dire qu'on en avait besoin a priori, et on en avait besoin dans le contexte dont je parle. Et puis, parce qu'il y a finalement différentes manières de remettre en cause l'IVG. Il y a ceux qui peuvent dire, personne ne le dit et personne ne le dira sans doute, en tout cas pour le moment, on revient sur l'IVG. Mais il y a aussi certaines, si vous voulez, organisations ou certaines paroles qui laissent penser et... On a eu quand même, pendant le débat, la parole de la représentante du Rassemblement national qui a parlé non pas de revenir sur l'IVG, mais qui a parlé d'une certaine manière de revenir sur la manière dont elle s'exerce, c'est-à-dire revenir sur les délais supplémentaires qui avaient été donnés il n'y a pas longtemps. C'est une manière de revenir dessus. Et puis on sait qu'il y a des gens qui en sont opposés. Alors quand ils en sont opposés, pour des convictions qui leur sont personnelles et pourquoi pas religieuses. On peut admettre en effet que tout le monde ne soit pas d'accord. Mais comme c'est un droit qui n'oblige personne à utiliser, eh bien, tout en étant sensible au fait que certaines femmes n'iront jamais sur le sujet, on le respecte, mais ça ne justifie pas qu'on empêche les autres de le faire.
Donc selon vous, la législation telle qu'elle existait jusqu'alors en France ne garantissait pas la pérennité du recours du droit à l'IVG pour les femmes qui le souhaitent.
Elle garantissait un droit. Le problème, c'est d'arriver à l'effectivité du droit. Et d'ailleurs, ce que nous devrions faire, au-delà de l'inscrire dans l'IVG, dans la Constitution, c'est d'aller voir une mission d'information. Moi, j'aimerais qu'on fasse une mission d'information pour voir très précisément comment c'est exercé aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que les conditions dans lesquelles sont exercées font que c'est un droit que personne ne conteste. Mais comment ce droit est-il réellement effectif? Parce qu'on entend aussi dire que dans les rapports qu'il peut y avoir dans les centres, dans certains centres, eh bien, si vous voulez, on commence à dire « Ah oui, mais bon, le délai de réflexion, on pourrait l'allonger. C'est beaucoup trop, on pourrait aller plus loin. Il faut que les femmes réfléchissent davantage. » Donc, il y a beaucoup de manières, en fait, si vous voulez, de remettre en cause, sans que ce soit apparent, remettre en cause le droit à l'IVG. Le droit est effectif. Il est juridique, il est dans la loi, il faut qu'il soit effectif.
Alors, on va poursuivre avec Alice Carré, à qui je pose évidemment exactement la même question, même si elle n'a pas participé au vote, mais une petite idée de ce que doivent être ses convictions sur le sujet. Donc vous pensez qu'il fallait ou pas constitutionnaliser l'IVG ?
Oui, tout à fait. Déjà, je trouve que c'est une belle victoire, hein, une belle victoire déjà pour toutes les féministes qui se sont battues pour ce droit depuis des années. Une victoire pour toutes les femmes aussi qui l'attendaient, mais une victoire aussi pour la société, puisqu'il y avait à peu près 84% de personnes en France qui souhaitaient la constitutionnalisation de l'IVG. Donc ça montre quand même que c'était la société évolue et voulait le faire inscrire dans la Constitution. Après, c'est aussi une victoire contre les conservateurs, mais c'est aussi une victoire par rapport à tous les pays dans le monde, puisque ça renvoie un signal que la France est capable. Donc la France a été le premier pays à constitutionnaliser l'IVG, et donc la France est capable de le faire. Donc pourquoi pas d'autres pays à l'heure où justement il y a des reculs, vous en parliez tout à l'heure, aux États-Unis, en Pologne, du droit à l'IVG.
Donc pour vous, il y avait une valeur d'exemple aussi, vous êtes en train de nous dire.
Je pense que c'est bien que la France montre qu'elle peut être pionnière aussi en termes de droits des femmes. Donc moi, je pense que c'était vraiment urgent et nécessaire de le faire, notamment parce qu'il y avait besoin d'une victoire féministe. On l'a vu, il y a quand même beaucoup de recul des droits des femmes. Il y a un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui montre que quand même le sexisme progresse, etc. Donc il y a aussi besoin de ces victoires-là. Après, on en a parlé, il y a des reculs des droits des femmes dans le monde également. Il y avait le recul du droit à l'IVG qui a déjà été menacé aussi dans d'autres pays en Europe, même si, je pense à l'Espagne ou au Portugal notamment, même si finalement, il n'y a pas eu une victoire du camp conservateur dans ces pays-là. Et après, c'est aussi important parce que c'est le rappel que toutes les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Donc c'est bien de l'inscrire dans la Constitution. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un droit qui est quand même régulièrement menacé. Récemment, on a eu pas mal d'attaques des plannings familiales aussi. Dans toute la France, dans certains départements, ils sont tagués, ils reçoivent des menaces. Il y a quand même une grosse organisation de personnes qui sont contre l'IVG pour essayer d'empêcher les conditions.
Donc selon vous, le droit à l'IVG serait effectivement menacé en France aujourd'hui, autant que dans d'autres pays, c'est ce que vous pensez vraiment ?
Oui, je pense qu'il est menacé par certaines personnes, oui.
Mais qui représente quoi dans la société ? C'est un peu ça la question tout de même.
Du coup, 16%, j'imagine, vu qu'il y a 84% des Françaises et Français qui étaient pour la constitutionnalisation. Donc sans doute un peu
moins. On peut accepter le droit à l'IVG sans avoir forcément envie de le... Enfin, sans juger qu'il est nécessaire de le mettre dans la Constitution. C'est encore autre chose, hein.
Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une petite partie de la population qui pense que ce droit à l'IVG, il est pas normal et qui est très organisé. Parce que, par exemple, il y a quand même, quand une femme veut avorter, elle peut tomber sur des centres qui l'empêchent, qui lui disent de garder son bébé. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites.
Ce que j'entends dans tout ce que vous dites, c'est que c'est, en tout cas pour vous et sans doute votre camp, il y a quelque chose de l'ordre d'une victoire idéologique tout de même.
Aussi, oui. C'est le symbole par rapport à ça.
Alors, on va passer la parole au seul parmi nous qui est médecin. Donc, il va vraiment savoir de quoi il s'agit lorsqu'on parle, d'une part, d'un avortement, du droit à l'IVG et de la nécessité ou pas de le constitutionnaliser. Franck Bouteau, je vous demande votre avis maintenant.
Eh bien, bonjour. Merci, Eric Duprix, de m'avoir invité à cette table ronde qui est effectivement assez intéressante, bien que pour moi, elle est un petit peu... imprévu, on va dire, parce que je fais partie de la génération qui a connu l'avant loi Veil. J'étais étudiant en médecine avant 1975 et j'ai vécu les drames que tout le monde connaît, les horreurs.
Là, vous parlez des avortements clandestins,
oui,
qui se passaient dans des conditions épouvantables.
J'ai vécu aussi le fait qu'il y avait déjà des médecins qui faisaient des avortements en prenant des grands risques, y compris à l'assistance publique de Paris où j'étais étudiant. Bon. Et une fois que cette loi est paru, ça a régularisé des choses. Il y a beaucoup de médecins déjà qui faisaient des avortements dits clandestins dans des conditions correctes et pour éviter que les jeunes femmes aillent donc dans des conditions abominables. Et ensuite, il m'a semblé que ça s'était apaisé et qu'il n'y avait pas de problème particulier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans qui justifie une nouvelle mesure réglementaire pour ce sujet? J'ai beau chercher, moi, la réponse que j'ai, c'est rien. Je ne vois absolument aucune justification à avoir mis dans la Constitution un chapitre supplémentaire, parce qu'après, on va mettre tout dans la Constitution. Encore une fois, ça doit rester un cadre très...
Il est vrai que ça pourrait être la porte ouverte à beaucoup de demandes. Alors, moi aussi, je veux que mon droit soit constitutionnalisé. On peut mettre la chasse, pourquoi pas. On peut imaginer beaucoup de choses.
Absolument, hein. Il y a tout un tas de droits.
Qui est menacé aussi, d'ailleurs.
Il y a tout un tas de droits. Et je crois que la Constitution n'est pas un endroit où on met ce genre de choses. Après, il y a donc il faut chercher quelles sont les raisons, n'est-ce pas, de ça, parce qu'il y en a forcément. Donc j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de justification, il y a des raisons. Donc on pourra les évoquer. Moi, ce que je voudrais, il y a quelque chose qui me choque beaucoup là-dedans, c'est que on va finalement parler d'une victoire. Je vois pas où est la victoire là-dedans. Aujourd'hui, il y a 250 000 avortements en France.
Oui.
C'est énorme.
235 000 en 2022, pour être précis.
Ça ne cesse d'augmenter. Pendant le même temps,
Une vraie question, effectivement.
Le nombre de naissances ne cesse de diminuer. Il était de 900 000 il y a quelques années, il est passé à 750 000. Donc, si vous voulez, il faut se poser la question, pourquoi il y a autant de femmes qui ne veulent plus d'enfants? Et je pense que, en cherchant les raisons, on va essayer de définir quand même un objectif qui serait de diminuer le nombre d'avortements.
Ben, c'était le but, je pense, de la loi Veil, quand même, au départ.
Exactement, parce qu'on fait dire à Mme Veil des choses qu'elle n'a jamais dites. Elle a bien dit que c'était pour éviter des drames. Elle n'a pas dit que c'était pour
cas de grande détresse.
Faire la promotion de l'avortement. Et là, on a l'impression qu'on est en train de faire la promotion d'avortement. Je suis désolé, il faut parler de contraception.
Mais on a l'impression que ça devient presque un moyen de contraception ultime.
Exactement, exactement. Et ça, c'est des choses qui sont inadmissibles. Je veux dire, une intervention, une IVG, c'est un acte chirurgical qui, malgré tout, comporte encore des risques. Et donc, quel est le bénéfice? Et bien, le bénéfice, il existe, mais il y a un tas de moyens d'obtenir le même bénéfice sans prendre les mêmes risques. Il faut reparler de la contraception, et puis il faut parler aussi des raisons profondes qui font qu'un certain nombre de femmes ne veulent plus avoir d'enfants. Là, c'est encore un autre débat, mais qui touche par exemple aux allocations familiales. Bon, à Debout la France, on a dans notre projet le fait d'imposer des allocations familiales dès le premier enfant. C'est complètement absurde d'avoir des couples qui n'ont absolument aucune aide pour le premier enfant, qui ont une aide dérisoire pour le deuxième et qui commencent à avoir des aides importantes à partir du troisième. Et on voit même des gens qui ont 10 enfants et qui ont 6 000 euros d'allocations familiales. On est en plein délire. Si on veut que les femmes puissent avoir la possibilité de ne pas avorter, il faut s'attacher à ces problèmes. Ce que je veux dire, on va pas envisager tous les sujets, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un drame de voir que demain, M. Macron va se présenter devant les télévisions pour faire encore une journée théâtrale devant toutes les télés. Il va nous faire encore un discours magnifique, n'est-ce pas, qu'il aura oublié, que tout le monde aura oublié le lendemain, parce que de toute façon, il n'arrête pas de se contredire d'un jour à l'autre. Tout ça pour glorifier quoi? Pour glorifier un acte qui est finalement un acte qui n'est pas du tout souhaitable, qu'on est obligé de faire. Mais je veux dire, on n'a pas à faire la promotion de l'avortement. Voilà, c'est tout.
Alors, Monique Iborra, alors peut-être aussi sur le... Ça me semble important, la dénaturation de l'IVG qui pourrait être, comme l'a dit Franck Gouteau, pour certaines femmes, une espèce de moyen de contraception ultime. C'est-à-dire, il reste au moins ça si on a fait une petite erreur et qu'on se retrouve enceinte sans le vouloir.
D'abord, l'accès à l'IVG pour une femme, c'est une liberté. On parle de liberté et c'est très important. Et c'est une liberté qu'on n'impose pas aux autres, qui est un choix personnel d'une femme. Vous savez, moi, j'ai commencé mes études à l'hôpital, j'étais sage-femme. Donc, alors ça remonte à un certain temps, mais j'ai vu aussi, évidemment...
C'est ce que disait Franck Bouteau.
Oui, mais enfin, en maternité, c'est-à-dire qu'on les recevait vraiment, quoi. J'ai vu, et je sais ce qu'on nous disait, les médecins qui étaient là. Les médecins et même les sages-femmes qui étaient là depuis un moment, on nous disait, surtout, ne parlez pas de contraception. Ne parlez pas de contraception. Et ces femmes-là qui arrivaient, elles arrivaient dans des états extraordinaires, mais certaines d'ailleurs prêtes à mourir, hein. Et on ne devait pas leur parler de contraception, parce qu'à partir du moment où on leur parlerait de contraception, elles ne feraient plus d'enfants. On voit que ce concept, l'IVG ou la contraception, à l'origine du fait que les femmes ne font plus d'enfants, cette politique nataliste qui voudrait qu'en effet on supprime l'IVG pour que les femmes fassent des enfants, c'est une erreur sociologique énorme. Pourquoi ? Parce que cette liberté, les femmes, la possibilité de faire une IVG, pour elles, c'est une liberté. Mais il ne faut pas croire, et moi j'ai côtoyé beaucoup de femmes quand la possibilité a été ouverte, et même j'ai milité en effet pour que ce soit possible, je peux vous dire qu'une femme qui décide de faire une IVG, elle ne le fait pas en gaieté de cœur, ou elle ne fait pas...
Personne n'a dit ça, personne ne le pense.
Mais non, elle ne fait pas ça en pensant finalement, je remplace l'IVG par la contraception. C'est absolument faux, absolument faux, absolument faux. Et celles qui le font, c'est parce qu'elles ne savent pas ce qu'est la contraception et que, en effet, fait dans les centres de planification, c'est bien fait, mais tout le monde ne va pas dans les centres de planification. Donc, parler de contraception, oui, mais dire que pour que les femmes fassent des enfants, il faudrait supprimer l'IVG, c'est une aberration.
Je ne vous ai pas interrompu, donc je ne peux pas vous laisser dire ça.
Eh bien, moi, j'ai compris ça. Donc, ce que je voulais dire par rapport aux femmes et aux enfants, on a vu aussi des femmes qui accouchaient et qui n'avaient pas fait d'IVG parce qu'elles n'avaient pas d'accès à l'IVG. Et on a vu, quand on était auprès d'elles, la relation mère-enfant qui se mettait en place. Et on l'a vu aussi quand les femmes ont eu la possibilité de faire l'IVG, c'est-à-dire d'avoir un enfant désiré. Un enfant attendu, ce qui n'était pas le cas forcément quand elle n'avait pas la possibilité d'accéder à l'IVG. Je peux vous dire que la relation mère-enfant à ce moment-là n'avait plus rien à voir. Et c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir que c'est pas parce qu'on va donner des allocations que les femmes feront plus d'enfants. Tout ça aussi, c'est une aberration. C'est terminé. On n'est plus dans ce schéma-là. Ça, c'est le schéma conservateur, nataliste, mais qui, même si on le mettait en place, on ne le mettra pas, même si on le mettait en place, ne donnerait pas les résultats qui sont apparemment attendus. On est à côté de la plaque quand on dit ça.
Enfin, apparemment, Emmanuel Macron veut relancer la natalité en France, si j'ai bien compris.
Mais il veut relancer la natalité en France, certainement pas en supprimant l'IVG.
Non, certes, mais comme vous parlez...
Ou en disant que l'IVG fait que finalement...
Il veut bien mettre en place une politique nataliste tout de même. Enfin, mais... En tout cas, motiver les gens pour qu'ils fassent plus d'enfants.
Il peut toujours le dire. Vous savez, un président de la République peut avoir beaucoup d'influence... pour faire des enfants, ce sera une autre affaire, quoi.
Oui.
Non, mais franchement, mais relier l'IVG au fait que les femmes ne veulent pas faire d'enfants, ça me paraît complètement à côté de la plaque.
Enfin, toujours est-il qu'effectivement... Bah,
si on fait une IVG, c'est pour ne pas avoir d'enfants. Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire, là.
Oui, mais finalement, si la natalité baisse, c'est parce qu'il y a des IVG...
J'ai pas dit ça, madame. J'ai dit qu'il y a un certain nombre de femmes qui recourent à l'IVG parce qu'elles n'ont pas les moyens matériels d'élever un enfant. C'est tout ce que j'ai dit. Il faut les aider à fonder une famille, avoir un enfant. Mais c'est pas pour la natalité, je m'en fiche de la natalité.
Et à éviter le drame, comme vous l'avez dit très justement, Monique Iborra, qu'est l'avortement. Parce que, bon...
Oui, mais enfin là, on parle de choses qui sont passées il y a 50 ans. Hein. Excusez-moi, mais on est en 2023 maintenant.
Oui, vous pouvez bien intervenir.
Alors, justement, j'allais vous donner la parole, Alice Carré. Allez-y, réagissez à ce qui a été dit, parce que vous avez certainement des nuances à apporter, voire carrément des contradictions.
Oui, alors sur la loi Veil qui a été mise en place il y a 50 ans, je pense qu'elle a quand même beaucoup évolué cette loi au fil des années. Il y a quand même, le délai il a été allongé, ça a été plus pris en charge aussi. Donc on ne peut pas dire que ça a été figé dans le temps depuis 50 ans cette loi.
Mais je pense que ce que voulait rappeler Franck Bouteau, c'est que la volonté de Simone Veil à l'époque, et je ne suis pas certain qu'elle ait beaucoup varié dans le temps, n'était pas celle par rapport à ce qui est devenu l'IVG aujourd'hui, et notamment l'allongement des délais.
Oui.
Je vous redonne la parole.
Après, bon, moi, je reviens encore sur... je ne pense pas que l'IVG, on y aille de gaieté de cœur. C'est quand même un parcours qui est vraiment très, très humiliant. Et par contre, je reviens sur la contraception. Bah, je pense que c'est effectivement très nécessaire de parler de contraception, d'en débattre dans les écoles, de faire d'ailleurs... d'avoir des temps là-dessus, que ça soit dans toutes les classes, hein, collège, lycée, même à l'école primaire. Et je pense aussi que sur la contraception, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que la charge contraceptive, elle est quand même exclusivement portée par les femmes, quasiment. Et c'est un gros souci.
C'est une vraie question, oui.
Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Et notamment, peut-être même de la recherche publique, parce que peut-être que si les femmes... ne prennent plus contraception, par exemple la pilule, c'est parce que en ce moment il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que la pilule c'est pas forcément super pour le corps, etc. Donc c'est un peu embêtant et voilà, donc c'est quelque chose qui est porté par les femmes et qu'il faut vraiment qu'il faudrait améliorer et qu'il faudrait faire de la recherche dessus, je pense. Et
après, il faudrait qu'il y ait des politiques publiques là-dessus, vous voulez dire plus incisives.
Ouais. Exactement. Et après pourquoi les femmes ne font pas forcément... pourquoi la natalité baisse, on peut citer aussi dans les raisons, je pense, l'éco-anxiété. Notre monde, il n'est quand même pas super en forme, on va dire, avec le réchauffement climatique, le changement climatique. Je pense aussi que s'il y avait des services publics de meilleure qualité, peut-être qu'il y aurait aussi il y aurait plus de... Ça permettrait de rassurer certaines personnes sur le fait d'avoir des enfants. Et après... c'est sur le temps de travail aussi, peut-être que s'il était réduit ou si on travaillait moins, en règle générale, il y aurait plus de temps pour s'occuper de sa famille et ses enfants. Et ça, c'est des choses aussi qu'on aimerait porter chez les écologistes.
Alors, il est vrai aujourd'hui qu'il y a des gens qui tiennent un discours en disant « Nous ne faisons plus d'enfants parce que le monde qui s'annonce, qui est déjà présent, est terrifiant et qu'on n'a pas envie de voir nos enfants grandir dans ce monde. » Autre question tout de même, après cette constitutionnalisation de l'IVG, il y a des personnes qui ont alerté sur le fait qu'elles pourraient remettre en cause, selon eux, la clause de conscience des professionnels de santé, c'est-à-dire leur liberté, Monique Iborra parlait de liberté, de refuser de pratiquer une IVG. Alors que vous soyez pour ou contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, est-ce que vous estimez en effet qu'elle pourrait remettre en cause la clause de conscience ou en tout cas qu'elle pourrait ouvrir la porte à une demande dans ce sens qui est le cas, à peine ça avait été voté le jour suivant, le planning familial que vous citiez, Alice Carré, a demandé à ce qu'on supprime la clause de conscience pour les médecins. Et là, je donne la parole évidemment à Franck Bouteau parce qu'il est concerné au premier chef. En tout cas, sa corporation l'est prioritairement.
Oui, dans les explications, dans les justifications, j'ai dit qu'il n'y en avait pas, mais dans les explications, il y en a une, c'est qu'effectivement, il y a en filigrane le fait qu'on pourrait remettre en cause donc la possibilité de refuser pour des convictions personnelles, notamment religieuses, à certains médecins. L'État a montré qu'il est de plus en plus intrusif par rapport à la médecine en général. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé autour du Covid, où malheureusement, le Conseil de l'Ordre des médecins s'est, comme d'habitude, positionné du côté de l'État, c'est en rappelant qu'il avait d'ailleurs été créé par Pétain. Et on a le risque qu'effectivement, il y ait des médecins qui se voient refuser le droit de dire ben non, moi, mon éthique, ma morale, ma religion m'interdisent de faire ça. Alors, Dupond-Moretti, il a dit quelque chose. Ça ne remet absolument pas en cause la possibilité de refuser de pratiquer un avortement. Je le cite. Alors, ça ne me rassure pas du tout parce que tous les membres du gouvernement, ils n'ont pas arrêté de dire tantôt oui, tantôt non. Ils n'ont pas arrêté de se contredire, y compris le président de la République en permanence. Donc, je dirais que je suis quand même un peu inquiet qu'il en ait parlé parce que ça veut dire sans doute qu'il a envie de faire exactement le contraire de ce qu'il dit. Bon, je ne sais pas comment on va régler ça, notamment avec les musulmans, parce que là, on est dans un environnement chrétien, je dirais. Donc, il y a beaucoup de médecins chrétiens qui pratiquent des avortements, que je sache. Dans les communautés musulmanes, où on voit bien qu'on a de plus en plus de médecins qui viennent notamment d'Algérie, on a ouvert Grand Les Vannes. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pouvoir refuser ou pas? Et puis, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de femmes musulmanes qui ont recours à l'avortement, ça c'est sûr. Enfin, dans tous les pays musulmans, l'avortement est interdit, sauf dans certains d'entre eux pour des raisons médicales, en raison de, on va dire, d'une la possibilité d'atteinte à la vie de la mère. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on parte là-dedans, mais alors on va arriver dans des conflits monstrueux.
Donc pour vous, il y a vraiment danger que la clause de conscience soit supprimée.
Le simple fait qu'il ait parlé de ça, On a vu la PMA, on a vu la GPA, on a vu le mariage pour tous. Non, c'est certainement pas pour permettre à des couples homosexuels d'avoir des enfants, etc. Et puis à chaque fois, on passe une marche supplémentaire.
Pour vous, c'est le pied dans la porte et on referme
pas
la porte.
Du moment qu'il en parle, c'est que ça va être dans le débat bientôt.
Alors, Monique Iborra, d'abord, est-ce que vous pensez que la clause de conscience est en danger après la constitutionnalisation de l'IVG? Et deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il faut tout faire pour la maintenir ou au contraire qu'il faudrait la supprimer?
Écoutez, je viens d'entendre un discours là, honnêtement, qui me paraît un fantasme. Honnêtement. Non seulement, quand on donne une liberté, c'est pas pour en prendre à d'autres, déjà, que d'autre part, et c'est pas que le garde des Sceaux qui l'a dit, le garde des Sceaux n'a repris que ce que dit le Conseil constitutionnel. Il l'a dit, le Conseil constitutionnel. Après, on peut dire que le Conseil constitutionnel aussi dit n'importe quoi. Le Conseil constitutionnel a dit que ce droit était le droit, en effet, que les médecins puissent refuser, était constitutionnel. Il était inscrit dans la Constitution en même temps que l'IVG, tel que la loi l'a prévu. Et honnêtement, faire un procès d'intention comme vous le faites au garde des Sceaux, sans avoir, si ce n'est votre propre fantasme, je trouve que c'est même plus de la politique, quoi. Honnêtement, non seulement il n'en est pas question, mais encore une fois, on ne donne pas une liberté en prenant, d'ailleurs quand on parlera, probablement on le fera, je pense, bientôt, de la fin de vie, on reviendra sur ce sujet également. Sur la possibilité qu'ont les médecins de ne pas faire l'acte, mais on en reparlera, c'est pas le sujet. Mais moi là, je suis catégorique, personne ne veut remettre en cause le droit des médecins, en effet, qui concerne l'IVG. Par contre, ce que prévoit la loi, c'est que le médecin qui ne veut pas pratiquer l'IVG adresse la femme à un autre médecin. Ça, c'est dans la loi.
Donc pour vous, la clause de conscience est garantie par le fait que l'IVG est constitutionnalisé.
Évidemment.
Je vous donne la parole à Lise Carré, juste Franck Boutou, vous vouliez réagir.
Je réagis parce que si vous voulez, l'État s'est permis de mettre, je dirais, en dehors de la société tous les médecins qui, pour des raisons scientifiques, ont refusé de pratiquer des injections au niveau du Covid. Et l'État se permet tout, je veux dire, avec évidemment comme bras armé toujours le Conseil de l'Ordre des médecins. Et donc, en fait, il faut être... C'est pas un procès d'intention. On a été tellement douché par tout ce qui s'est passé récemment que maintenant, on s'attend à tout. Je veux dire, on croit toujours que ça va pas arriver. Et puis, il y a toujours des choses invraisemblables qui arrivent. Donc, soyons... Alors, j'espère que vous avez raison, Madame Elmora. Très sincèrement, j'espère.
Alice Carré, alors vous, la clause de conscience, est-ce qu'elle est, comme le dit Monique Iborra, garantie par le fait qu'on ait constitutionnalisé l'IVG? Et puis quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il faut effectivement la maintenir coûte que coûte? Qui est la liberté de conscience pour les médecins de refuser de pratiquer une IVG si leur éthique, leur conviction religieuse le leur interdit?
Je vais peut-être pas revenir sur ce qui a été dit, mais oui, je pense que là, c'est, à l'heure actuelle, c'est plutôt garanti, notamment parce qu'il y a des demandes que ça soit plus garanti. Donc ça montre quand même que s'il y a des demandes pour enlever ça de la Constitution, actuellement c'est plutôt bien parti. Enfin,
donc vous pensez qu'il n'y a absolument pas de raison de s'inquiéter sur le fait qu'on mettrait à mal la liberté de conscience des médecins?
Alors actuellement je ne pense pas, mais sur le coup moi je pense que...
Alors actuellement qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui vient derrière?
Voilà, moi je pense que le planning familial a raison de demander ça. D'ailleurs il y a d'autres personnes politiques qui l'ont demandé, hein, LFI et puis ELV aussi, de remettre en cause cette double clause de conscience, parce que c'est le seul acte médical où il y a une double clause de conscience, justement, chez les médecins. Et donc, ça paraît quand même pas forcément très normal qu'il y ait une exception pour cet acte médical. Et après, on voit quand même, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a quand même des difficultés à accéder à l'IVG dans certains territoires, et ça, c'est vraiment très dommage. Par exemple, il y a quand même 17%, je crois que c'est le chiffre, de femmes qui doivent changer de département pour pouvoir avorter. C'est quand même énorme. Et peut-être que de supprimer cette clause, ça permettrait d'avoir un peu plus de possibilités.
Donc, vous allez militer, je suppose, vous, votre parti, la NUPES en général, pour que la clause de conscience soit supprimée. Ça veut dire obliger des médecins à accomplir un acte qui est complètement contraire à leurs convictions. Vous iriez jusque-là? Alors qu'on peut trouver, a priori, il n'y a pas de problème aujourd'hui pour trouver des médecins qui pratiquent l'IVG. C'est plutôt la majorité que la minorité, d'ailleurs.
Oui, enfin, je ne sais pas. Il y a quand même beaucoup de médecins qui refusent de la faire et c'est vraiment compliqué dans certains départements. Donc ça me paraît vraiment un souci. Puis il y a toujours le code de déontologie quand même des médecins qui permet de refuser quelque chose.
Alors pourquoi vous entendez ça, Franck Bouton?
Oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Je connais la position du planning familial, donc il n'y a pas de surprise. Je voudrais quand même dire qu'effectivement, il y a des femmes qui ont du mal à trouver un médecin qui pratique une IVG, mais ce n'est pas un problème de positionnement des médecins par rapport à l'IVG, c'est un problème de maillage du territoire en termes de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a des déserts médicaux et ils touchent tout le monde. Ils touchent les gens qui veulent se faire soigner pour une grippe, ils touchent les gens qui ont un cancer et ils touchent effectivement les femmes qui veulent bénéficier d'une IVG. Donc c'est un problème plus général de désertification d'une partie du territoire, notamment des territoires ruraux. On a fermé énormément de maternités. Et tous les gouvernements successifs ont fait pareil, je dirais, depuis Juppé. Donc ils sont tous coupables. Et c'est quelque chose d'abominable de voir qu'il y a des gens qui sont obligés de faire des dizaines de kilomètres pour avoir un soutien médical. Et bien sûr, ça concerne effectivement les femmes qui ont besoin d'une IVG.
Alors Monique Iborra, après avoir entendu ce qu'a dit Alice Carré, donc ses positions personnelles et celles de, LFI, Écologie des Verts, ça pèse un petit peu quand même dans l'opinion et à l'Assemblée. Vous n'êtes pas plus inquiète qu'après son intervention? Pour vous,
non,
le problème ne se pose pas?
Non, il ne se pose pas, il ne se posera pas, sauf si, je ne sais pas, peut-être que si on avait Mélenchon peut-être au gouvernement. Ça comme si on peut aussi s'inquiéter de l'attaque sur les IVG s'il y avait le Rassemblement National au pouvoir. Donc, si vous voulez, ça, c'est des suppositions. Chaque parti donne ses priorités. Après, c'est la démocratie et c'est le vote. Je ne pense pas aujourd'hui en France, en effet, de la même manière qu'on dit l'IVG n'est pas menacée, je ne pense pas, honnêtement, en France aujourd'hui, que justement parce que c'est une liberté, je ne pense pas qu'on aille vers, et d'ailleurs les Français ne le demandent pas, autant ils demandent la possibilité d'avoir une IVG, autant ils ne demandent pas que les médecins soient obligés de le faire contre leur propre conscience. On n'en est pas là. Quelle fille défend de ça? Ils défendent bien d'autres choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Hein. Mais après, ce sont les Français qui décident par des votes, et voilà, majorité, les minorités.
Eh bien, on va parler de vote, justement, dans quelques instants. Je vais clore ce débat pour aujourd'hui, en tout cas. Une courte pause musicale, et l'on reprend la discussion d'ici une vingtaine de secondes, tous les quatre. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct, toujours en compagnie d'Alice Carré, Monique Iborra et Franck Bouteau, avec qui nous allons débattre maintenant autour d'une échéance qui approche petit à petit, les prochaines élections européennes. Elles ont lieu le 9 juin et la campagne démarre tout doucement. Le Rassemblement National a lancé la sienne dimanche dernier lors d'un meeting à Marseille, alors que la liste menée par Jordan Bardella est pour l'instant très largement en tête de tous les sondages, frisant même les 30% d'intention de vote, loin devant Renaissance annoncée à 20% à peine. Les autres listes ne dépassent pas les 10%. Que vous inspire la tendance actuelle de ces sondages? Et croyez-vous que la situation puisse beaucoup évoluer, voire s'inverser, d'ici le 9 juin? Alice Carré, j'imagine que le score du RN et celui de ELV à ce jour vous inquiète un peu.
Oui, je trouve ça un petit peu inquiétant. Après, j'espère que ça va évoluer, du coup. Nous, on a lancé notre lancement de campagne, c'était en décembre. Et depuis, il y a quand même énormément de choses qui se font sur tout le territoire de la France et de l'Outre-mer pour ces élections européennes. Il y a énormément de mobilisation, donc à Toulouse et partout ailleurs, sur du tractage, du porte-à-porte. Donc il y a vraiment une grosse motivation. Et c'est vrai que, bon, bien sûr, les Verts ne feront pas 30%, je suis assez réaliste là-dessus.
Mais leur score ne décolle pas trop, tout de même, pour l'instant, en tout cas.
Oui, mais alors, souvent, on est un petit peu en dessous des résultats, enfin, des sondages.
Les sondages, vous êtes plutôt au-dessus, vous voulez dire, au moment du vote, ou plutôt en dessous? Au moment du vote réel, je veux dire.
Au moment du vote réel, on est plutôt au-dessus, un petit peu. Donc on espère que
donc
ça va être le cas aussi cette fois-ci.
Vous pensez être sous-évalué, sachant que les élections européennes sont plutôt un type d'élection qui réussit plutôt au vert par rapport aux élections nationales. Ça ne vous inquiète pas que le score n'arrive pas à décoller, alors que les préoccupations environnementales des Français, même de la société française en général, sont bien connues. Est-ce que ce n'est pas étonnant que vous n'arriviez pas plus à convaincre?
Je pense que les élections européennes, c'est aussi quand même le 9 juin, donc ce n'est pas tout de suite, tout de suite.
On sait qu'il y a moyen d'inverser justement la tendance, vous.
Voilà, bah j'espère vraiment. Et en tout cas, je fais campagne pour avec tous les militants de Haute-Garonne et de France de LV.
Franck Boutot, vous, le score actuel du RN, j'ai bien actuel, hein, et ce sont que des sondages, certes, 30%, alors que la plupart des autres listes ont du mal, ne serait-ce qu'à atteindre les 10%, et que Renaissance est à 20% à peine, ça vous inspire quoi?
C'est dans la logique de l'évolution des sondages, sur notamment la cote de popularité de M. Macron ou de ses ministres. On voit bien qu'il y a un dégoût prononcé d'une grande partie de la population vis-à-vis de la classe dirigeante actuelle, pour de multiples raisons. C'est pas la peine de les énumérer, on en ferait un catalogue innombrable. Après, normalement, dans une élection européenne qui est à la proportionnelle, les gens ont l'occasion de s'exprimer sur leur convictions profondes.
Voilà.
Je veux dire, on ne parle pas de vote utile, là. On parle vraiment de gens qui vont exprimer un avis pertinent. Bon, bah, les écologistes, ils mettent l'écologie au premier plan de leurs préoccupations, et c'est normal, ils vont aller voter pour les écologistes. Il y a les marxistes purs et durs, lutte ouvrière, etc. Ils vont voter dans le sens. Après, en fait, la plupart des Français ne sont pas vraiment politisés. Ils constituent une masse de gens qui se déplacent un petit peu au gré du vent. Et je suis un peu surpris, je ne vous le cache pas, que dans ce contexte, il y ait autant de gens qui expriment le souhait de voter pour le Rassemblement national, parce qu'il me semble que jusqu'à présent, le Rassemblement national, c'était plutôt le collecteur de tous les gens qui ne supportaient plus la situation.
Des mécontents.
Et notamment des gens qui venaient de la gauche et qui ont considéré et qui considèrent actuellement que la gauche n'est plus la gauche, c'est-à-dire qu'elle ne défend plus les valeurs traditionnelles de la gauche, qui étaient de défendre le travailleur français, je le rappelle, et que maintenant la gauche s'est perdue dans des combats qui sont des combats autour du communautarisme, de
sociétaux.
On n'est plus vraiment dans le marxisme pur et dur, je dirais. Et il y a aussi le problème de l'immigration qui, de toute façon, est toujours considéré comme quelque chose de fantastique par la gauche et l'extrême gauche, et également par les gens qui nous dirigent. Et c'est très amusant d'ailleurs de voir qu'on a là d'ailleurs une collision totale entre le MEDEF, puisque le patron du MEDEF, il dit « je veux davantage d'immigrés », et puis la gauche et l'extrême gauche qui dit « on veut davantage d'immigrés ». Je trouve ça fabuleux. Et ça pousse un certain nombre de Français, si vous voulez, vers le seul parti qui actuellement, enfin il n'est pas le seul, il y en a d'autres, il y a aussi Reconquête, mais qui effectivement a un autre langage. Donc c'est pas un vote pour le Rassemblement national, c'est un vote en fait. La plupart des votes, on finit toujours par voter contre, plus que par voter pour. Monsieur Macron, il est passé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté contre Madame Le Pen, et notamment toute la gauche et l'extrême gauche. C'est comme ça que ça se passe, les élections en France. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se porter sur le RN.
Donc ces 30% du RN, pour vous, c'est sans doute en grande partie, ce n'est pas un vote d'adhésion.
Tout à fait, c'est ce que je veux dire.
Monique Iborra, il y a le score du RN et puis il y a Renaissance avait fait 22,5 à peu près lors des précédentes européennes, qui aujourd'hui est plutôt à un peu moins de 20. Ça vous inquiète ou vous pensez que ça va aller vers la hausse ou...
Voir le Rassemblement national faire ses scores, ça ne peut pas réjouir, en tout cas me réjouir, et réjouir tous ceux qui ne votent pas pour eux. Évidemment, mais dans quelle situation on est là? On est sur une élection européenne qui, de mon point de vue, ne ressemble pas à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Parce que l'on est dans un contexte tout à fait différent, que quand on discute avec les gens, il y a quelques années, l'Europe, même la dernière fois, l'Europe, ça paraissait très loin, très technocratique, et que c'était pas... Alors que les gens ont du mal à aller voter, hein, c'était quelque chose, d'ailleurs, le score au moment de la dernière élection, avant celle-ci, montrait que les gens ne se déplaçaient pas. Ils ne se déplacent pas d'une manière générale pour aller voter, mais encore moins pour l'Europe. Néanmoins, il y a eu, je crois, une prise de conscience de ce qu'était l'Europe et de ce que pouvait apporter l'Europe quand il y a eu le problème du Covid, de la Covid. Et qu'on s'est aperçu que là, l'utilité de l'Europe était importante sur deux fonctions qu'elle a occupées. Un, sur la possibilité d'avoir des vaccins et de les avoir relativement rapidement alors qu'on n'en avait pas du tout, et que l'Europe, là, a été très déterminante, tant au niveau des sommes d'argent qui ont été données aux États. Là, on n'a plus parlé de l'Europe, d'ailleurs, plus personne n'en parle finalement, et c'est peut-être un souci, on n'a pas vu l'Europe comme étant, en effet, une institution qui disait « attention, attention, un peu de rigueur, il ne faut pas trop dépenser, et 3%, faites attention ». Là, tout a été lâché au niveau européen. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, l'Europe a changé un peu de visage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et peut-être que les Français s'en aperçoivent pas vraiment, mais quand on a traité le problème de l'immigration, quand on traite le problème de l'immigration, et quand on traite le problème des agriculteurs, on parle de l'Europe. Obligatoirement, on parle de l'Europe. L'immigration, pourquoi ? Parce que vraiment, l'Europe est menacée, entre guillemets, dirait quelqu'un, par une immigration massive, pour plusieurs raisons. Des raisons sociales, mais des raisons aussi climatiques. Oui. Les gens ont perçu ça. Et quand on a parlé donc de l'immigration, au moment où on proposait nous-mêmes une loi sur l'immigration dont on a parlé, y compris chez vous, eh bien l'Europe aussi mettait en place une loi. Et on n'en avait jamais entendu parler, mais qui correspondait tout à fait aux préoccupations que nous avions, nous, à ce moment-là. Les agriculteurs, alors n'en parlons pas, les agriculteurs, tout le monde a compris, même ceux qui ne s'occupent pas d'Europe, à quel point les agriculteurs étaient, avec la PAC en particulier, étaient dépendants de l'Europe, évidemment. Donc, tout ça fait qu'il y a un contexte politique qui, de mon avis, est beaucoup plus perceptible par les gens qu'il ne l'était jusqu'à présent. Sur les résultats, le résultat en Europe et pas qu'en France, c'est vrai que les partis, sauf Debout la France, hein, je crois, parce que vous faites un score, à mon avis, très, 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 très bas. Je ne sais plus lequel c'est, mais très bas.
C'est 4%.
Vous avez quand même, en effet, ce type de résultats en Europe, en effet, qui pousse.
Bah, la plupart des partis, dans beaucoup de pays européens en tout cas, partis conservateurs, populistes, appelons ça comme on veut, de droite,
montent
parfois dans des proportions très importantes, c'est quelqu'un en France.
Oui, mais bien entendu.
En France, RN, Reconquête, et on peut mettre debout la France, ça fait 40% quasiment aujourd'hui dans les sondages.
Oui, c'est la raison pour laquelle on peut se poser aussi des questions sur la manière qu'a l'Europe, indépendamment de ce que j'ai dit au début, comment l'Europe peut se transformer. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est très important, mais très important, et qui en même temps, si vous voulez, fait prendre conscience aux Français qu'il y a un risque, y compris pour l'Europe, c'est le problème de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. Donc, si vous voulez, le contexte là est complètement différent. Après, c'est vrai que la campagne n'a même pas commencé, si j'ose dire. Elle commence maintenant. Et que c'est vrai que la dernière fois, de toute façon, on était intervenu très tard aussi, au dernier moment. Donc, étant donné ce contexte qui, moi, me paraît être complètement différent. Il faut voir maintenant comment les choses se passent. Je crois que M. Bardella, il est en effet peut-être très séduisant, mais réellement, on voit bien, quand on creuse un peu, y compris pour Mme Le Pen, hein, d'ailleurs, hein, quand on creuse un peu, on voit que c'est de la stratégie. On ne voit pas ce qu'ils auraient à proposer. Et d'ailleurs, ce qu'ils auraient à proposer, c'est probablement ce que les pays nationalistes européens vont vouloir aussi proposer. Donc il s'agit finalement, ce n'est plus une élection qui pourrait être marquée par de la gestion, c'est vraiment de la politique là, qu'on est en train de faire en Europe.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire dans ce que vous dites, au sens où, depuis le Covid, les crises agricoles, les Français comprennent mieux ce que peut l'Union européenne, ce que peut leur apporter, et pourtant, les Français d'ailleurs, l'ensemble des Européens, et pourtant, ce sont les partis, a priori pas hyper européistes, qui ont le vent en poupe. Comment vous expliquez ça?
Oh ben c'est très facile, parce qu'il est toujours plus facile d'être contre que d'être pour. Il est beaucoup plus facile d'être dans l'opposition que d'être les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Et donc, comme la stratégie de ces partis-là, c'est en fait, c'est d'abord, comme ça a été dit, ça, c'est d'abord être contre. Et puis, c'est parce que ce n'est pas simple. Or, leur discours à eux est simpliste. Donc, c'est vrai. Et donc, là aussi, c'est important. Et on a reproché, on en a parlé l'autre fois à votre émission, on a reproché à Macron en disant, ben, vous devenez Rassemblement National parce que vous prenez finalement leur solution. Non! On va sur leur thème, mais on a des solutions qui sont différentes, qui sont beaucoup plus difficiles à expliquer que les leurs, c'est évident. Et bon, ben ça nous demande en effet, si vous voulez, ça a toujours été le problème de ceux qui sont aux manettes et ceux qui sont dans l'opposition. C'est beaucoup plus facile d'atteindre l'opposition. Moi, j'ai été députée dans l'opposition et dans la majorité. Je peux vous dire que c'est plus facile d'être dans l'opposition que dans la majorité.
Alors, Alice Carré, une chose, bon, j'ai dit que le RN reconquête debout la France, aujourd'hui dans les sondages, c'est à peu près 40%, donc ça pourrait montrer, ça se dit depuis déjà quelques années, que la France est de plus en plus politiquement à droite. A contrario, on voit que le parti Renaissance est plutôt en baisse, il s'effrite, mais ça ne profite pas au parti de gauche. Alors, est-ce que ça ne signifie pas que la NUPES est un échec et que la gauche n'arrive pas à remobiliser son électorat naturel?
Moi, je ne pense pas que la NUPES soit un échec. La NUPES, c'était un accord électoral en 2022. Ça a permis d'avoir 150 députés à l'Assemblée nationale.
Donc, c'était uniquement électoraliste, c'est ce que vous dites?
Non, je ne dis pas ça. J'allais continuer. Il y avait un accord électoral à ce moment-là, donc ça a permis 150 députés, un intergroupe qui travaille et qui continue de travailler ensemble et de porter des propositions. Donc, à ce titre-là, ça ne me paraît pas du tout être un échec. Après, effectivement, il y a des stratégies différentes pour les européennes, mais ça n'empêchera pas de se réunir pour d'autres échéances qui auront lieu plus tard, notamment peut-être en 2027 ou même au municipal dans certaines villes, selon les stratégies qu'il y aura au niveau local.
Donc vous croyez encore à des listes d'union de la gauche au sens très large dans les années à venir, et notamment pour les municipales, voire pour la présidentielle de 2027, qui sont encore un peu éloignées, hein.
Oui, tout à fait, j'y crois parce que c'est quand même des scrutins où il y a besoin d'être ensemble, finalement. Et aussi parce que on continue à faire pas mal de choses ensemble à gauche. Alors, c'est peut-être pas exactement la NUPES, ça commence à être aussi une NUPES un peu plus élargie, avec d'autres partis de gauche, notamment, qui n'étaient pas tout à fait dans la NUPES. Mais en tout cas, il y a des discussions qui continuent, des actions qui se font ensemble, et ça, c'est ça qui paraît important.
Franck Bouteau, moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que le fait que la plupart des partis de droite surfent sur la vague actuellement un peu partout en Europe et notamment en France, ce qui leur permet de le faire, est-ce que ce n'est pas le fait qu'ils sont tous anti-immigrationnistes et ce n'est pas la donnée principale dans l'évolution de ces scores?
C'est probablement une explication, mais je pense qu'il y en a d'autres. Le problème de l'immigration, il n'est pas récent. C'est-à-dire, il existe en France depuis des années. On voit bien que chaque année, il y a un peu plus d'immigrés que l'année d'avant, mais ça ne remonte pas à 6 mois ou à 1 an. Ce qui est récent, c'est la vision que peuvent avoir les Français de l'Union européenne. Parce que jusqu'à présent, finalement, elle existait, l'Union européenne, on nous l'a imposée, je vous rappelle, hein, avec la trahison de Sarkozy qui a fait voter, comme par hasard, le Congrès à Versailles contre l'avis du peuple français, 55% de non quand même, au référendum de 2005. Et en 2007, paf, on fait le Congrès et bien sûr, on reprend les mêmes et on recommence. Et donc, de toute façon, au départ, déjà, il y a une trahison. Mais jusqu'à un temps récent, il n'y avait pas vraiment, on va dire, de prise de conscience de ce qui se passe. Et Mme Iborra a parlé du Covid. Et justement, le Covid, c'est l'exemple catastrophe pour moi. Madame von der Leyen, elle a signé avec Pfizer un contrat mirobolant de, je sais pas, 45-50 milliards d'euros pour un produit qui ne marche pas, qui est à l'origine de plein d'effets secondaires.
Mais
je parle du Covid.
Non, vous parlez des vaccins?
Non, ce ne sont pas des vaccins, madame. On ne doit pas utiliser le mot vaccin pour ces produits qui sont des thérapies géniques. Et d'ailleurs, Pfizer l'a dit. Mais enfin, on ne va pas reparler du Covid parce que bien sûr, on ne sera pas d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français, ils ont compris qu'ils ont pris une, deux, trois, quatre doses, que ça a coûté des dizaines de milliards et que ça a servi à rien. Et ça n'a servi à rien. Et qui a signé le contrat ? Madame von der Leyen. Et on ne peut même pas savoir quels sont les termes du contrat. On ne peut même pas savoir quelle était sa rétrocommission, qui, à mon avis, devait être conséquente. Sans oublier le fait qu'il a quand même un mari qui travaille pour une Big Pharma qui travaille avec Pfizer et qu'il a un fils qui travaille chez McKinsey, qui a été le conseiller de notre gouvernement pour ce qui concerne le Covid. Donc vous voyez que là, on est dans des conflits d'intérêts monstrueux, et ça, les Français, ils en ont eu conscience. Après, il y a eu quand même toute cette histoire de l'agriculture. Et là, on s'aperçoit qu'on mange de la viande, n'est-ce pas, qui a été élevé aux quatre coins du monde, qui est resté congelé pendant 2 ans, qui a transité par le port de Rotterdam après avoir été transporté sur des porte-containers et qui arrive au sud de la France pour être consommé, je ne sais pas où, peut-être dans les collectivités. Enfin, tout ça, et on parle du Mercosur, d'un traité qui est en train peut-être d'être signé.
On ne signe pas.
Oui, mais on apprend à ce moment-là qu'il y en a déjà 42 des traités qui ont été signés par l'Union européenne dans notre dos. Si vous voulez, les Français, ils en ont marre d'apprendre des trucs comme ça. Ils voient bien qu'au fur et à mesure que le temps passe, M. Macron, quand ça ne va pas, il dit c'est l'Europe.
Oui,
mais l'Europe, c'est... Non, mais l'Europe, c'est lui, de toute façon.
Mais oui.
C'est lui qui est à l'origine de toutes ces décisions. Et il vient nous dire qu'il va faire le contraire. Bien sûr que non. Il va continuer de la même manière. Et les Français, ils ont compris ça. Ils commencent à comprendre qu'ils se sont fait avoir pour de bon. Et bon, après, ils vont voter pour des partis. Moi, alors, je regrette qu'ils ne votent pas pour mon parti.
Oui, parce que si c'était vrai...
Je vous laisse répondre, Monique Iboray, on termine là-dessus.
Oui, parce que si c'était vrai, ils voteraient pour vous. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Non, moi, je vous assure, je suis très choquée de ce que vous dites. C'est le discours complotiste, quoi. Ce n'est pas autre chose.
Les complotistes, c'est ceux qui ont raison avant les autres, vous
et
le savez.
Eh bien, d'accord, mais autant vaut-il que les gens qui nous écoutent sachent que vous êtes complotistes.
Aucun problème là-dessus.
Franchement. Et moi, je suis très choquée. Très choquée. Heureusement que vous faites le score que vous faites, hein, quand même.
Alors, en revanche, vous ne pensez pas que si les Français votent aujourd'hui, en tout cas, les sondages donnent le RN, Reconquête, Debout la France, très haut, ce n'est pas parce que, comme le pense Franck Bouteau, ils n'ont plus confiance en l'Union européenne ?
Non.
Pour vous, ce n'est pas ça du tout la raison de ce vote ?
Non, bien sûr que non.
Est-ce que ça peut être l'argument que j'avançais, parce qu'ils votent pour des partis qui affichent leur volonté anti-immigrationniste ?
Bien sûr qu'il y a un élément qui est important. Bien sûr que l'immigration est importante, bien sûr, et que c'est un sujet qu'il nous faut traiter. Ça veut dire que nous-mêmes, on le traite mal.
C'est ça plutôt là qu'il n'aurait pas confiance.
On le traite mal, mais on commence quand même, contrairement aux partis de gauche, qui nous disent à nous, à ce moment-là, ben vous prenez les arguments du Rassemblement national. Jusqu'à présent, le fait on se bat sur ce sujet-là, on perd parce qu'on ne le prend pas par le bon bout. La réalité, c'est ça. Et on n'est pas aidé.
Ah oui, c'est sûr, vous ne le prenez pas par le bon bout.
On n'est pas aidé.
On va pas refaire un débat là-dessus, parce que là, ça serait très long.
On n'est pas aidé, vraiment pas aidé, par les partis de gauche. Mais en même temps, ils ne gagnent pas beaucoup de voix non plus, quoi.
Et c'est effectivement la question que posait Alice Carré. Mais bon, il reste 3 mois de campagne avant le vote du 9 juin. Il y aura sans doute des évolutions d'ici là. On en reparlera sans doute à la mêlée de l'info. Il reste très peu de temps là pour vos coups de gueule, vos coups de cœur. Je vais demander à Franck Bouteau d'être très rapide s'il a un coup de gueule ou un coup de cœur à donner.
Oui, alors je vais faire plaisir à Madame Carré, écologiste, puisque je participe à un collectif contre les nuisances sonores de l'aéroport de Blagnac, n'est-ce pas ? Et figurez-vous que j'ai appris que le kérosène n'était pas taxé. Voilà. Et ça m'a stupéfait, franchement. Parce que quand je vois que dès qu'on prend de l'essence, du gazole, on est taxé à mort, et que le kérosène n'est pas taxé, ça me révolte.
Ah bah vous aurez peut-être un point d'accord là-dessus. Alice Carré, vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager avec nous ?
Sur l'actualité ?
Oui.
Okay. Moi, je suis assez inquiète de ce qui se passe dans le monde en général avec l'Ukraine et Gaza, où il y a quand même des gros massacres, donc ça m'inquiète.
Donc c'est ça votre coup de gueule, hein, si je comprends bien. Monique Iboray, vous avez un coup de cœur, un coup de gueule, coup de chapeau, pourquoi pas ?
Un coup de chapeau, non, mais Non, mais dans un premier temps, ça, c'était un coup de gueule. Et dans un deuxième temps, ça m'a fait beaucoup sourire. Mais au début, c'était un coup de gueule. Quand j'ai vu quand même Madame Panot se mettre en photo sur une affiche
avec Simone Veil.
En face de Simone Veil, comme si finalement c'était son alter ego. J'ai trouvé quand même...
Ça a choqué même la famille de Simone Veil.
J'ai trouvé quand même que certes, elle fait beaucoup de provocations, d'accord, mais là, c'était d'abord le coup de gueule, et puis après je me suis dit, il vaut mieux en rire, voilà.
Eh bien, c'est la fin de cette 145e mêlée de l'info. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé, et tout particulièrement à Alice Carré, dont c'était la première dans cette émission. Merci aussi à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous nos fidèles auditeurs, ainsi qu'à ceux qui nous écoutaient pour la première fois. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.